Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français, diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, vendredi 15 mars 2019. Et comme d'habitude, nous allons présenter des programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire aujourd'hui, mon Indonésie, et aussi magazine culturel. La rubrique suivante, l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Bon, chers amis, écoutons maintenant le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie a demandé à l'aide de Djibouti en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. L'Indonésie et l'Australie organisent le premier dialogue interconventionnel. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman visite l'Indonésie pour discuter de la question palestinienne. La Chine ouvre des opportunités de coopération touristique avec la ville de Malang. L'Égypte et le Canada s'intéressent à investir à Batang. PT Pelabuhan Indonesia étudie le déplacement des artefacts indonésiens des Pays-Bas au musée maritime. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le gouvernement indonésien a demandé l'appui du gouvernement de la République de Djibouti pour se présenter comme membre du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies pour la période 2020-2022. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que la demande de soutien avait été adressée directement par le vice-président Youssouf Kalla au premier ministre djiboutien Abdul Kader Kamil Mohamed à Jakarta jeudi. Madame Retno Marsudi au palais du vice-président Jakarta a déclaré jeudi que l'Indonésie a lancé une campagne pour l'élection des membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à la fin du mois de février et en juin. L'Indonésie organisera une exposition à Genève, en Suisse, dans le cadre de la campagne. Son élection aura lieu lors de la 74e Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York en novembre. Le gouvernement indonésien et australien ont tenu le premier dialogue interconventionnel sur le thème « Partage d'expériences et de meilleures pratiques » à Bandung, Java Occidental, du 13 au 14 mars 2019. Cela a été déclaré par le directeur général de l'information et de la diplomatie du ministère des Affaires étrangères, M. Cecep Herawan, dans son discours à l'ouverture du premier dialogue interreligieux Indonésie-Australie, rapporté par le ministère indonésien des Affaires étrangères, reçu par Republika Online à Jakarta, mercredi. L'Indonésie et l'Australie ont convenu de lutter pour la paix dans le monde en renforçant et construisant de bonnes relations à long terme entre la religion et la culture, supprimer les perceptions négatives entre les différentes identités et surmonter le radicalisme. Les chefs de gouvernement des deux pays ont souligné l'importance de la mise en œuvre du dialogue interconventionnel entre l'Indonésie et l'Australie. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de Oman, Yusuf Alawi bin Abdullah, visait à discuter des questions de préoccuper les deux pays. L'Indonésie a tenu sa deuxième réunion bilatérale officielle avec le gouvernement d'Oman jeudi au bâtiment Pancasila du ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta. Le ministre Retno Marsudi a déclaré que les deux pays ont également discuté plusieurs domaines, y compris l'aviation, l'économie, les investissements des citoyens indonésiens à Oman et la question palestinienne. Dans le domaine de l'aviation, les deux pays sont d'accord pour accélérer la solution de l'accord de transport aérien dont les discussions étaient entrées dans la phase finale. Dans la coopération économique, les deux pays ont constaté des progrès, notamment dans le domaine du commerce. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement de la République populaire de Chine ouvre des opportunités de coopération dans le secteur du tourisme avec la municipalité de Malang dans l'est de Java, car il est considéré d'avoir le potentiel et la valeur de vente assez élevée pour les touristes étrangers. Comme cité par Antara, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Indonésie, Xiao Qian, a déclaré mercredi dans la ville de Malang que sa partie pourrait donner la facilité au gouvernement de la ville de Malang à promouvoir le tourisme pour la communauté chinoise. Il espère qu'avec la promotion du tourisme dans la ville de Malang en Chine, la visite des touristes chinois à la ville de Malang peut augmenter. Le PDG des entreprises Al-Sayer Company Group et Lotus Middle East Egypt et le premier vice-président canadien de Pro-Consultation souhaite investir à la région de Batang, Java Central. Le régent de Batang, M. Wihaji, a déclaré mercredi que les deux investisseurs s'étaient rendus à Batang après avoir reçu une recommandation du gouverneur de Java Central, Ganjar Pranowo, lors d'une visite en Arabie Saoudite. Antara a rapporté qu'il y avait trois investissements, à savoir le tourisme à la place de Sigandu, Batang Superblock, dans lequel se trouvent des hôtels et des centres commerciaux, ainsi que des visites d'hôpitaux. Selon Wihaji, avec l'opportunité d'investissement, le gouvernement de la région ouvrira les facilités d'investissement aux investisseurs, notamment concernant les problèmes de licence, conformément aux règles du plan d'aménagement régional. PT Pelabuhan Indonesia 2 ou IPC est en train d'établir des relations avec les autorités néerlandaises compétentes afin que des artefacts et des objets liés à l'histoire maritime indonésienne qui sont stockés dans le pays puissent être déplacés et présentés au musée maritime indonésien. Le directeur de PT Pelabuhan Indonesia 2, Elvin G. Masasia, a déclaré à Antara mercredi à Jakarta que cet effort visait à compléter des objets ou des artefacts historiques liés à l'histoire de la marine indonésienne exposés au Musée maritime indonésien. Elvin souhaite que le Musée maritime indonésien soit une référence pour le développement maritime indonésien pour la communauté. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « La crise politique en Algérie ». Mercredi le 13 mars 2019, le peuple algérien a manifesté dans plusieurs villes du pays. Ils ont rejeté le soi-disant paquet de solutions politiques présenté lundi par le président au pouvoir Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce qu'il a proposé exactement alors ils ont refusé? Le président avait apparemment décidé de reporter les élections générales. En conséquence, le peuple a protesté contre cette décision et l'a considérée comme une violation de la Constitution. La demande du peuple était que les élections générales se tiennent à une heure prédéterminée, le 18 avril 2019, et le président en exercice ne participe pas aux élections générales. Le président Bouteflika lui-même a accueilli une partie des manifestants qui souhaitent ne plus se présenter. Mais cela ne suffisait pas car il considérait que le report de l'élection générale ne visait qu'à prolonger son mandat. Cette crise a été déclenchée par le désir de Bouteflika de participer aux prochaines élections générales. Cela a été rejeté par de nombreuses personnes car Bouteflika était au pouvoir depuis 20 ans et avait commencé à se dégrader après un accident vasculaire cérébral 6 ans auparavant. Bien qu'il ait finalement choisi de ne plus participer aux élections et même de réorganiser la composition du gouvernement, Le président n'a pas précisé clairement le moment de report de l'élection. Il est donc à craindre que le président, comme alors personnellement son successeur. En notre préoccupation est que le report des élections peut menacer la démocratie en Algérie. L'Algérie avait connu une crise politique dans les années 80 qui avait débouché sur des conflits armés sanglants dans les années 90 et avait pris fin en 2002. Personne ne s'attendait à un conflit similaire en Algérie. Le rôle important qui revient maintenant à l'élite du pays est de trouver une solution afin que la crise politique puisse être résolue immédiatement, sans effusion de sang, et que le peuple algérien puisse l'accepter. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 15 mars. Le 15 mars 1906, le constructeur automobile Rolls-Royce a été fondé. Rolls-Royce Limited est un célèbre constructeur automobile britannique qui fabrique également des moteurs d'avion. Rolls-Royce a été fondé par Charles Stewart Rolls et Sir Frederick Henry Royce le 15 mars 1906 comme le prolongement du partenariat qui existe depuis 1904. En 1971, Rolls-Royce a connu des difficultés financières en raison du développement du RB211 qui était trop coûteux, alors la société a été nationalisée pour devenir Rolls-Royce Limited. Le 15 mars, la journée mondiale des droits des consommateurs. Le 15 mars est célébré chaque année comme la journée mondiale des droits des consommateurs en tant que moyen de sensibiliser davantage le monde aux droits et aux besoins des consommateurs. La journée mondiale des droits des consommateurs a été inspirée par le président des États-Unis, John F. Kennedy, qui a envoyé un message spécial au Congrès américain le 15 mars 1962 sur la question des droits des consommateurs. Il est le premier leader mondial à le faire. Les mouvements des consommateurs ont ensuite commémoré cette date en 1983 pour la première fois en tant que journée des droits des consommateurs. Aujourd'hui, des organisations des consommateurs du monde entier, y compris l'Indonésie, commémorent chaque année la journée des droits des consommateurs. Le 15 mars 1983, Nyepi, pour la première fois, est déclarée fête nationale en Indonésie. Nyepi a été célébré simultanément à Bali en 1973. Auparavant, le Nyepi était organisé individuellement dans chaque village. La base de la mise en œuvre était généralement les traditions locales de chaque village. 10 ans plus tard, le gouvernement central indonésien a institué Nyepi en tant que fête nationale sur décision du président indonésien. Numéro 3, l'an 1983. Nyepi est devenu un jour férié pour la première fois le 15 mars 1983. Dans ce décret présidentiel, Waisak est également désigné fête nationale. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Kenangan tentang hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Lettre d'amour pour Starla » chantée par Firgun. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonus.id. Chers amis, écoutons maintenant la rubrique Mon Indonésie.
Chers fidèles auditeurs, nous continuons notre programme avec Mon Indonésie et pour le titre, l'exposition de l'IFEX 2019 a été officiellement organisée. Le Salon international du meuble en Indonésie, IFEX 2019, a officiellement ouvert lundi à Diexpo Kemayoran, Jakarta. Environ 149 pays ont participé à l'exposition qui s'est tenue du 11 au 14 mars. Dans son discours, le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, a déclaré que les meubles étaient une industrie en aval dont les produits ont une forte valeur ajoutée et jouent un rôle important dans l'économie nationale. L'une de ses contributions est dans la formation de produits intérieurs bruts, PIB, de la perception d'emploi et des recettes en devises. En 2018, la contribution de l'industrie atteignait 1,36% du PIB total de l'industrie non pétrolière et gazière. Pendant ce temps, la valeur des exportations de l'industrie du meuble a également connu une tendance à la hausse d'année en année. En 2018, la valeur des exportations de l'industrie du meuble a augmenté de 4% par rapport à 2017, atteignant 1,69 milliards de dollars américains. En outre, le nombre d'acteurs de l'industrie a également augmenté. En 2017, l'Agence centrale de la statistique, BPS, a noté qu'il y avait 1918 unités de grandes entreprises de taille moyenne absorbées près de 100 000 travailleurs directs. Le chef de l'Association indonésienne d'industrie des meubles et des artisanats, Sunoto, dans la même occasion, a affirmé que cette exposition encourageait les performances des exportations de meubles et des artisanats indonésiens. Sunoto a déclaré que pour faire avancer l'industrie du meuble indonésien, on nécessite une coopération avec d'autres pays, par exemple avec la Chine, qui est actuellement le principal exportateur de meubles au monde, avec une valeur d'exportation de plus de 50 milliards de dollars américains. La valeur des exportations de meubles indonésiens n'a atteint que 2,5 milliards de dollars. Il a dit que cette exposition devrait enregistrer des transactions à l'exportation pouvant atteindre 800 millions de dollars américains. Pendant ce temps, le président Joko Widodo, lors de sa visite à la plus grande exposition de meubles d'Asie du Sud-Est mercredi, a apprécié l'augmentation et l'amélioration de la conception des produits de meubles indonésiens fabriqués par des artisans du pays destinés à l'exportation. Le président Joko Widodo espère que les industries du meuble, du bois, du rotan, des saises et du bambou pourront se développer à deux chiffres, parce qu'en 2014, n'a augmenté que de 4%. Le président a estimé que la perspective de l'industrie indonésienne du meuble et de l'artisanat est toujours très prometteuse. Cette industrie a encore la possibilité d'augmenter. En outre, le président estime que les produits du bois indonésien devraient être en mesure de maîtriser et même de surperformer les produits similaires d'autres pays. Le président a également révélé son projet de simplifier des principales réglementations relatives à l'industrie. Serviteur, c'était mon Indonésie, de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Cintamu, bawalah daku selalu dekatmu.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure la deuxième chanson intitulée « Apportez-moi » chantée par Puput. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter une rubrique magazine culturel. Bonjour, bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter la danse de Bidou. Le concert de musique Frontière de Malacca aura lieu du 28 au 29 mars 2019 au Champ de Mission de la Paroisse de Betun à Malacca dans l'est de Nusa Tenggara. Cet événement vise également à préserver des arts de la culture et des traditions. Le concert de musique de Malacca sera plus intéressant avec la présence de trois danses de masse typiques du Timor. La danse de TB, Likurai et Bidou seront présentées colossalement. L'une des trois danses qui seront présentées au concert de musique Frontière Malacca, à savoir la danse de Bidou. La danse de Bidou a été utilisée par les habitants de Nusa Tenggara Est comme média pour les jeunes hommes et les femmes qui sont prêtes à se marier pour se connaître et choisir le partenaire. Généralement, la danse de Bidou est exécutée par 8 danseuses et 2 danseurs. Dans le spectacle de danse de Bidou, les danseurs utilisent généralement des vêtements traditionnels avec des assoirs. La danse de Bidou est généralement accompagnée par des accompagnements musicaux tels que guitare, violon et sasando. Le rythme de la musique est un rythme rapide. En plus de la musique d'accompagnement, la danse de Bidou est également accompagnée des chansons traditionnelles typiques de Nusa Tenggara Est. Dans la danse de Bidou, les mouvements des danseurs et danseuses sont différents. Les mouvements des danseuses sont généralement dominés par des mouvements douces des mains, tandis que les danseurs dansent habituellement avec des mouvements distincts. Si un danseur a trouvé sa femme idéale, un danseur danse autour de sa fille idéale. À l'étape suivante, le danseur danse en agitant son mouchoir sur le visage de la jeune fille et essayant de poser le mouchoir sur l'épaule de la femme de son choix. Si la danseuse accepte, le mouchoir sera reçu et à la fin de l'événement, chaque couple mangera du riz dans une assiette. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Ganti, aku tak tahu. tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était une chanson intitulée Fidèle, chantée par Jikustik. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant la rubrique L'Indonésie en couleur. Une rubrique qui fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs dans le monde entier. Voici l'Indonésie en couleur ayant pour titre « Les étudiants du TB remportent un des signes à faible émission de carbone au Japon ». Restez à l'écoute avec nous sur www.voice.id. Les étudiants ITB ont une nouvelle fois rendu l'Indonésie célèbre dans les compétitions internationales. Ivan Dani Dwi Putra, étudiant de 3e cycle, spécialisé en design urbain à l'Institut de technologie de Bandung, ITB, a remporté la première place du concours de la conception à faible teneur en carbone, AILCD, à Kitakyushu au Japon, du 15 février au 1er mars 2019. La participation d'Ivan au concours organisé par l'Institut asiatique de conception à faible émission de carbone est une série d'événements du programme des 100 jeunes étudiants auxquels il participe actuellement. Musique. Ivan avec les membres de l'équipe a lancé l'idée Happy Sunday 7, un projet de planification virtuelle du dimanche pour les personnes âgées. Il a pu rivaliser avec d'autres membres de l'équipe de divers pays asiatiques. Il estime que d'autres groupes d'étudiants proposent des projets nécessitant beaucoup de systèmes, de personnes et d'outils supplémentaires. Cela diffère de l'idée de son équipe qui estimait que les villes de Wakamatsu et Tobata avaient des émissions de carbone relativement faibles. Se situe précisément à un faible niveau de population et le pourcentage de personnes âgées est assez élevé. Par conséquent, il souhaite que les personnes âgées de cette ville, qui sont toujours extrêmement énergiques, soient autonomisées sans avoir à impliquer un système compliqué et sans avoir besoin de populations supplémentaires en dehors de la ville. Ainsi, il pense que les émissions de carbone resteront faibles et même diminueront. Les activités conçues par l'équipe d'Ivan sont l'éducation, le sport et le week-end de jardinage. Il a également conçu l'activité en utilisant les parcs de la ville qui commençaient à être vides de visiteurs, préservés et durables. Ivan a reconnu que cette idée était très admirée par les juges. Il ne s'attendait pas à présenter une idée unique et dépassant les attentes de la plupart des gens. Pour eux, cette idée est très contextuelle, réaliste et unique. Serviteurs, c'est la ligne de Jean-Claude pour ce soir avec les titres. Les étudiants de TB remportent un des signes à faible émission de carbone au Japon. Merci de nous avoir suivis. À demain. Smoking.
Voice of Indonesia.
Chers auditrices et auditeurs, c'était une chanson intitulée « Tombé amoureux » chantée par Reza. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, comme d'habitude, nous allons continuer notre programme avec une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons vous présenter une chanson en provenance de Kalimantan du Sud, intitulée Paris Berantai. Chers amis, chaque région d'Indonésie a sa propre chanson. L'un d'entre eux, intitulé Paris Berantai. Elle provence de Kalimantan du Sud raconte le désir de quelqu'un pour son amant qu'il ne rencontre pas depuis longtemps. Cette chanson exprime aussi de grands amours. Cela se voit sur les paroles qui racontent de l'atmosphère de Kota Baru, notamment à Paris Berantai, un lieu de rencontre où les amoureux tombent amoureux l'un de l'autre. En 1960, Paris Berantai a été enregistré sur des disques par l'orchestre Mali Rindang Banwa est publié par Lokananta Solo. Cette chanson est populaire et diffusée souvent sur Radio République Indonésia dans tout le pays. Le compositeur, qui s'appelle Anang Ardiansah, a créé cette chanson parce qu'il s'inspire de la performance de la danse de Gandut, la danse couple typique de Banjar, comme le Ronggeng ou le Tayub, qui sont rarement présentés. Jusqu'à présent, la chanson, dont le titre est Paris Berantai, a été adaptée et réorganisée en différents types de musique. Bon, chers amis, écoutons maintenant une chanson intitulée Paris Berantai en provenance de Kalimantan du Sud. Merci à tous et au revoir.
Indonesia.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.